Il est 20h, vous êtes bien sur Radio Campus Paris, c'est la dernière de Feux d'Artifice de la saison.
Feux d'Artifice, le magazine qui met un doigt dans la culture. Des artistes contemporains, des artistes moins contemporains, et parfois des contemporains. Un samedi par mois à 20h, sur Radio Campus Paris.
C'est officiel depuis mai, Shuti Gatwa sera le prochain visage de Doctor Who. Ce nom ne vous est peut-être pas familier, chers auditeuristes, tellement abreuvés de séries en tout genre que vous ne pouvez pas forcément retenir le nom de chaque interprète, de chaque personnage. Et nous ne vous jetterons pas la pierre ce soir. Et pourtant, le visage de Shuti Gatwa vous sautera peut-être aux yeux quand je vous dirai qu'il n'est ni plus ni moins l'interprète d'Eric dans la série Sex Education. C'est bien lui qui deviendra le premier acteur noir à incarner le personnage mythique du Docteur dans la prochaine saison de cette tout aussi mythique et bientôt soixantenaire série de science-fiction britannique. Et après 2 mois à garder son casting dans la série, Shuti Gatwa a déjà pris des dispositions pour se protéger, lui et sa famille, de toute attaque physique à son encontre. C'est ce qu'a révélé le journal Variety à travers le témoignage d'un acteur travaillant avec lui sur un autre tournage, qui a déclaré que Shuti Gatwa a déjà dû engager des services de protection autour de son domicile, mais aussi autour de ceux et de sa famille proche. Le témoignage de cet acteur ne détaille pas si Shuti Gatwa a engagé des services de protection par précaution face aux potentielles attaques racistes qu'il pourrait subir ou bien s'il l'a fait du fait de menaces sur les réseaux sociaux ou ailleurs déjà existantes. Quelles que soient les raisons, c'est quand même fou de se dire qu'en 2022, soit au 21e siècle, faut-il le rappeler, qu'un acteur issu d'une minorité aille jusqu'à embaucher des services de sécurité pour avoir simplement obtenu un rôle. C'est quand même fou de voir la haine qui peut être déchaînée quand un acteur issu d'une même minorité obtient un rôle sous prétexte qu'il devrait être réservé à la lignée des mâles cis blancs qui les ont interprétés jusqu'alors, comme ça a pu être le cas de Doctor Who jusqu'à ce que Jodie Whittaker en prenne le rôle en 2017. Et ça vaut pour Doctor Who comme pour d'autres franchises, notamment pour James Bond où, à la moindre évocation d'une hypothétique rumeur du casting d'Idris Elba, tous les suprémacistes blancs s'affolent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans Suprémaciste, il y a 6. Bref, je ne vais pas m'épancher sur la spécificité de Doctor Who qui fait que le personnage du Docteur se régénère, procédé scénaristique qui mentionne depuis la nuit des temps que le Docteur, comme chaque personnage de son espèce, peut changer de visage sans distinction de genre ou de couleur de peau. Et je ne vais pas m'épancher dessus parce que, même si ça rend encore plus débile les attaques contre les actrices qui reprennent le rôle du Docteur alors qu'elles ne sont pas des hommes cis blancs, parce que la diégèse de la série permet que le Docteur puisse avoir n'importe quelle apparence, aucune franchise n'a besoin de ce procédé scénaristique pour changer l'apparence de ces personnages, il suffit de suivre l'air du temps. Vous écoutez Radio Campus Paris. Et bonsoir et bienvenue dans Feux d'Artifice, l'émission qui met un doigt dans la culture pour la dernière fois de la saison. Bonsoir Agathe.
Bonsoir Simon. Au sommaire ce soir, une interview, des best-of, un point festival de l'été avec Jules, organisateur du festival Love Letters qui se tiendra le 1er et 2 juillet à Avignon. Enfin, une chronique de l'ami André qui nous parlera de son coup de cœur musical et émergent.
Mais d'abord, il y a quelques mois, nous entretenions avec le directeur adjoint de l'Atelier des Lumières, lieu d'exposition à Paris situé dans le 11e arrondissement. Et c'est ça qu'on va vous passer tout de suite.
Feux d'Artifice, c'est jusqu'à 21h sur le 93.9 et ça commence maintenant.
Feux d'Artifice, le magazine qui met un doigt dans la culture.
Guillaume Alandaloussi, bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de l'Atelier des Lumières, lieu d'exposition à Paris sous le signe de l'immersion visuelle, situé dans le 11e arrondissement.
Bonjour Agathe.
Bonjour. Les expositions en cours à l'Atelier des Lumières sont Cézanne, Lumière de Provence, suivie de Kandinsky, l'Odyssée de l'abstrait. Les 2 expositions courent jusqu'au 2 janvier 2023 et la 3e, Destination Cosmos, court jusqu'au 7 mai 2022. Le lieu accueille aussi de la création contemporaine avec Recoding Entropia, une expérience audiovisuelle immersive. Donc déjà, Guillaume Alandaloussi, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce lieu si particulier et de ce qu'il distingue d'un lieu d'exposition plus classique, entre guillemets ?
Oui, bien sûr. Alors, l'Atelier des Lumières est particulier dans le fait que c'est un lieu qui a une âme. Pour revenir un petit peu sur l'histoire de Culture Espace et des centres d'art numérique, donc le concept d'un centre d'art numérique a été développé par Bruno Monnier, le président directeur général de Culture Espace, en 2012 aux Carrières des Lumières, au Beau-de-Provence. Fort du succès des Carrières des Lumières, il a souhaité ouvrir un nouveau centre d'art numérique immersif à Paris. Les recherches ont été longues puisque l'idée était de trouver un lieu qui avait une âme pour pouvoir non pas créer de toutes pièces un lieu d'exposition, je dirais, assez classique, mais bien de trouver un lieu remarquable, architectural, avec une histoire, dans lequel on allait installer un dispositif technologique qui allait permettre de le transformer en centre d'art numérique, en s'adaptant au lieu, et pas l'inverse. Donc les recherches ont été assez longues, c'était très difficile donc, de trouver un lieu dans Paris qui permettait de répondre aux critères d'exigence, donc de surface, de hauteur sous plafond, de capacité à être transformé en centre d'art numérique. Et finalement, le lieu a été trouvé, donc cette ancienne fonderie, qui date de 1835, qui a eu une belle histoire, puisque c'était une fonderie de métaux au XIXe siècle, qui a ensuite, au XXe siècle, été transformée en magasin d'exposition, en halle d'exposition pour des machines-outils, et qui ensuite a trouvé une troisième vie avec l'Atelier des Lumières quand elle a changé de propriétaire. Et donc nous sommes arrivés, après 2 ans de travaux, dans ce lieu splendide, nous avons réussi à lui redonner une nouvelle vie en le transformant en centre d'art numérique.
Et justement, dans ce centre d'art numérique, on peut retrouver en ce moment l'exposition Cézanne, Lumière de Provence. Quel a été le point de départ de Gianfranco Annuzzi, j'espère que j'écorche pas trop son nom, qui est responsable de la création artistique de l'Atelier des Lumières et qui a travaillé sur l'exposition Cézanne, Lumière de Provence. Quel a été le point de départ pour lui, Guillaume Landalussi?
Alors, Gianfranco Annuzzi, avec son équipe, lorsqu'il cherche à créer une nouvelle exposition, donc déjà là, il y a la sélection de l'artiste, donc les critères sont assez complexes, puisque pour pouvoir créer une exposition d'art numérique d'une trentaine de minutes, il faut quand même un maître de l'histoire de l'art qui a eu une grosse production. C'est-à-dire que ça limite le champ des possibles, même s'il en reste encore beaucoup, mais globalement, il faut un artiste qui a produit entre 600 et 900 toiles, donc ça limite un petit peu, même si ça laisse encore beaucoup d'artistes possibles. Pourquoi Cézanne? Parce que Cézanne est un artiste aux multiples facettes. On a essayé de le placer dans des cases, dans des courants. Il a eu beaucoup de périodes différentes au sein de sa carrière artistique, qui sont très intéressantes. Et surtout pour nous, ce qui est intéressant à l'Atelier des Lumières et ce que Gianfranco Annuzzi a voulu mettre en lumière, j'allais dire, c'est que l'artiste Cézanne travaille beaucoup sur les points de vue, les perspectives, la profondeur, la lumière et la texture. Ce sont des choses qui, pour nous, sont très intéressantes parce qu'elles offrent beaucoup de possibilités pour être mises en scène, être animées, être découpées, et ça permet, en termes de rendu sur une exposition numérique, d'immerger complètement le visiteur avec des jeux de texture. On peut voir le grain de la toile, on peut voir l'épaisseur de peinture sur les parties où Cézanne peignait au couteau au lieu de peindre au pinceau. Il y a beaucoup de possibilités qui nous permettent de jouer avec les différentes textures, les différentes formes, les différentes lumières. Et Gianfranco Annuzzi a voulu mettre en avant cet aspect de l'artiste.
Et l'exposition, justement, comme celle de Cézanne, Lumière de Provence, elle regroupe des œuvres du peintre, présentement exposées par exemple au musée d'Orsay ou bien aux États-Unis. Dans une certaine mesure, est-ce que l'exposition les regroupe et les présente aux yeux du public? Est-ce que c'est un moyen, à travers les expositions de l'Atelier des Lumières, de rassembler l'œuvre d'un artiste, finalement,
et de le proposer aux spectateurs? Vous avez exactement touché du doigt l'intérêt de l'exposition numérique, c'est un petit peu de créer l'exposition idéale. Puisque en réfléchissant, dans cette exposition d'une trentaine de minutes, on a environ 600 œuvres de Cézanne qui sont présentées tout au partie et animées dans l'exposition. Aujourd'hui, créer une exposition classique en faisant venir les 600 œuvres des quatre coins du monde, c'est quasiment impossible, voire impossible. Donc en fait, on crée un peu l'exposition idéale qui rassemble un maximum d'œuvres de l'artiste pour pouvoir montrer aux visiteurs un univers complet, ce qui est plus compliqué, voire très dur à réaliser avec une exposition classique.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec justement cette manière de créer l'exposition idéale, c'est que déjà ça bouscule un petit peu la vision qu'on peut avoir d'une exposition, puisque les peintures, en tout cas de Cézanne dans le cadre de l'exposition sur Cézanne, sont toujours en mouvement. Elles sont aussi accompagnées de musique, qui a énormément d'importance, puisqu'elle accompagne complètement la projection des œuvres. Est-ce que vous pouvez nous parler de la musique, de la musicalité qui est liée à l'exposition? Est-ce que dans une certaine mesure, l'exposition plutôt serait incomplète sans elle?
Ah oui, tout à fait. Le concept immersif que nous voulons créer et développer est basé vraiment sur cette association entre les images et la musique. Pour créer une émotion, il y a différents moyens. Nous, le but est vraiment de créer cette émotion, de diffuser la culture, de diffuser de trouver ce nouveau vecteur qui permet de toucher un public plus large. Et la musique vient complètement s'associer aux œuvres de l'artiste. C'est un parti pris, puisque dans la création de l'exposition, la direction artistique de Gianfranco Iannuzzi prend les décisions d'associer telle ou telle musique à tel ou tel moment avec telle ou telle œuvre, telle ou telle séquence. C'est vraiment une manière de venir compléter les images avec une musique qui va, selon le directeur artistique, être parfaitement en adéquation pour susciter l'émotion telle que lui estime que Cézanne voulait la susciter.
Et donc, comme on le disait justement, donc l'exposition est un véritable spectacle de son et lumière. Est-ce qu'on peut parler quelque part d'une nouvelle forme de muséalité? Juste pour rappeler aux auditoristes, la muséalité, ça correspond, on va dire, à l'agencement et la disposition des œuvres dans un espace d'exposition. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume Al-Andalousi?
Je pense qu'en fait, oui, c'est une nouvelle forme de muséalité qui n'a absolument pas vocation à venir remplacer les formes plus classiques, mais bien de les compléter, puisque ce nouveau vecteur permet d'attirer un public de visiteurs qui n'est pas forcément friand des musées traditionnels. Ça leur permet de venir découvrir l'univers et les œuvres d'un artiste dans un contexte différent et plus attractif à leurs yeux, puisque peut-être plus ludique, plus sensationnel et plus émotionnel. Néanmoins, ce nouveau concept est complètement complémentaire des concepts existants, puisque l'idée est bien pour nous de susciter de l'intérêt pour que les visiteurs puissent ensuite pousser leur intérêt vis-à-vis de l'artiste et de son œuvre pour aller découvrir ses tableaux classiques et traditionnels dans un musée.
Et comme vous le disiez aussi, l'exposition donc est très ludique. On voit notamment qu'il y a beaucoup d'enfants qui se rendent à l'exposition avec leurs parents. C'est vraiment des expositions qui attirent tous les publics, en fait.
C'est ça, tout à fait. C'est le but. Le but étant de ne pas cloisonner l'art, mais bien de le décloisonner pour permettre à tout le monde d'y avoir accès. Je dirais que pour des enfants, l'intérêt pédagogique est multiple, puisqu'ils vont... Ils vont adhérer au spectacle, puisqu'ils vont avoir des sensations qui vont être générées par la musique, par les images, par les animations et par le numérique, hein, qui est attractif pour notamment les jeunes générations. Néanmoins, ils vont voir et imprimer dans leur cerveau des images qui vont susciter une émotion, un souvenir, et qui vont être associés à Cézanne et qui vont participer de leur culture générale et de leur culture artistique.
Et c'est une culture artistique qui est peut-être unique pour chaque visiteuriste, puisque tout le monde est invité à déambuler à sa guise dans l'espace d'exposition à chaque fois. Il n'y a pas d'ordre qui est défini, dans le cadre de l'exposition sur Cézanne. Il y a une multiplicité du coup des points de vue pour regarder les œuvres projetées sur les multiples surfaces de l'espace. Est-ce que finalement, chaque visite n'est pas unique et chaque point de vue n'est pas unique aussi par ce biais-là?
Vous avez parfaitement raison. Chacun vit l'expérience à sa manière, avec sa vision et à son rythme. Nous avons à l'Atelier des Lumières des créneaux d'entrée pour la billetterie et ensuite le visiteur peut rester le temps souhaité à l'intérieur. On n'a pas de limite. Il peut visionner une fois, deux fois, trois fois l'exposition complète, ce qui lui permet de pouvoir l'avoir de différents points de vue, puisque chaque espace à l'intérieur de l'Atelier des Lumières est différent et suscite une énergie et une dynamique différentes. Les perspectives sont différentes selon l'endroit où l'on va se trouver et on ne va pas voir la même chose. Donc en effet, comme vous le disiez, l'intérêt est vraiment de déambuler, sachant que chaque point de vue va offrir une vision différente de l'œuvre. Tout n'est pas similaire à l'instant T dans la halle.
Vous disiez tout à l'heure, Guillaume El Andalousi, que une exposition, un cadre d'exposition comme celui que propose l'Atelier des Lumières était complémentaire aux formes d'exposition, je dirais, un peu plus classiques. Et il n'y a pas justement, au-delà de redéfinir l'espace d'une exposition et d'être un complément aux autres expositions, l'Atelier des Lumières valorise aussi des œuvres qui semblent questionner l'espace, par exemple, d'un cinéma. Je pense par là au studio de l'Atelier des Lumières qui projette en ce moment Recoding Entropia de François Vautier, qui est un film immersif projeté à 180 degrés, donc avec une vue sur une projection normale et puis sur les murs qui sont à droite et à gauche du spectateur, aussi une projection et une continuité de l'écran. Est-ce que c'est une volonté du lieu d'explorer d'autres arts que l'art pictural et peut-être de créer d'autres compléments à d'autres arts comme le fait Recoding Entropia avec le cinéma et l'animation?
Oui, tout à fait, vous avez raison. L'art pictural étant l'ADN et le cœur des centres d'art numérique du groupe Culture Espace. Néanmoins, aujourd'hui, on estime que la technologie, le numérique, permettent de voir émerger des jeunes créateurs, des productions qui sont très qualitatives et beaucoup plus contemporaines, telles que Recoding Entropia, qui offrent aujourd'hui une vision différente sur les possibilités offertes par ce type de lieu immersif. Donc c'est important d'aller explorer ces possibilités, de permettre à des studios de pouvoir diffuser leurs créations dans des lieux comme le nôtre et de pouvoir ouvrir un peu le regard des visiteurs à quelque chose de plus moderne. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons d'une manière générale en termes de stratégie, puisque nous diversifions un petit peu le type d'exposition que nous proposons au public avec des choses plus contemporaines et plus pédagogiques et plus grand public, tel que Destination Cosmos sur le thème de l'espace, réalisé en partenariat avec le CNES, par exemple.
Est-ce que vous pouvez nous parler justement des expositions, des événements à venir à l'Atelier des Lumières, de ce à quoi le spectateur peut s'attendre dans le futur?
Bien sûr. Donc l'Atelier des Lumières, la programmation classique, hein, sera toujours basée sur des maîtres d'histoire de l'art. Néanmoins, on s'oriente vers des expositions temporaires en nocturne, diffusées pendant les vacances scolaires pour pouvoir permettre un public large d'y assister. Donc dans ce cadre-là, nous avons lancé à la Toussaint, aux vacances de la Toussaint en 2021, l'exposition Destination Cosmos, qui avait été réalisée en partenariat avec le CNES, qui a connu un succès magnifique, qui nous pousse aujourd'hui à la reprogrammer aux vacances de Pâques pour permettre à tous les visiteurs qui n'avaient pas pu y avoir accès car la billetterie était complète, de pouvoir de nouveau avoir l'opportunité soit de la revoir, soit de pouvoir la découvrir. L'idée dans ce type de programmation qui se renouvellera hein, à l'avenir et qui fait d'ailleurs partie d'une lignée qui est en cours depuis plusieurs années, puisque nous avons eu des expositions temporaires basées sur la photographie, par exemple avec Terra Magnifica, Yann Arthus Bertrand. Nous avons eu ensuite Jimmy Nelson, avec qui nous avions créé une exposition temporaire à l'Atelier des Lumières. Voilà, c'était des expositions sur la Terre, sur notre planète, sur les gens qui la peuplent. Et on a voulu ensuite continuer dans cette logique-là et s'éloigner un peu de la Terre pour partir dans l'espace avec le CNES et être toujours dans cette logique de pédagogie, de belles images et d'immersion sur des thèmes qui se prêtent bien à l'immersion. Destination Cosmos étant complètement dans ce thème-là. Et à l'avenir, vous pourrez compter sur l'Atelier des Lumières pour continuer dans cette lancée et proposer des expositions qui vont sortir du cadre des maîtres de l'art pictural tels qu'on les entend pour s'adresser à des sujets plus novateurs et plus modernes.
D'accord. Mais on a hâte de découvrir tout ça, en tout cas. Merci beaucoup, Guillaume El Andalousi, d'avoir été au micro de Feu d'Artifice sur Radio Campus Paris. Je rappelle à nos auditrices que l'exposition en cours à l'Atelier des Lumières sont Cézanne, Lumière de Provence, et Kandinsky, l'Odyssée de l'abstrait, à retrouver jusqu'au 2 janvier 2023. Et on vous presse à aller voir Destination Cosmos, Ultime défi, qui court jusqu'au 7 mai 2022 seulement, et donc avec des projections pendant les vacances de Pâques. Ne manquez pas non plus Recoding Entropia, une expérience audiovisuelle immersive. Merci beaucoup Guillaume Landalussi.
Je vous remercie Agathe.
Petite précision au sujet de la date d'exposition à l'Atelier des Lumières. L'exposition Cosmos reprend le 1er juillet seulement et les expositions Cézanne, Lumière de Provence et Kandinsky, l'Odyssée de l'Abstrait courent jusqu'en janvier 2023. Et tout de suite, on s'écoute un peu de musique sur Radio Campus Paris. C'était le titre « Dernier métro » du duo électropop français Les Pirouettes. Le groupe faisait ses adieux lundi à la Maroquinerie. En effet, le duo formé en 2011 et composé de Léo et Vicky a décidé de se séparer après 3 albums de grande qualité.
Vous écoutez Feu d'Artifice sur Radio Campus Paris.
Il est 20h24, Feu d'Artifice continue avec toi Agathe, c'est vrai que tu es toujours là.
Oui.
Et on est content. Et aussi bientôt Jules qui va nous parler du festival Love Letters dont il est le co-organisateur et j'avoue que personnellement j'ai hâte de l'entendre. Mais d'abord, comme c'est la dernière émission avant l'été, et oui Sniff, nous avons décidé de revenir sur les moments qui ont marqué un petit peu cette première saison et on a décidé de le faire un petit peu avec les invités Agathe.
Exactement
avec,
Simon.
Toutes les personnes qui nous ont rejoints sur le plateau de Feu d'Artifice depuis maintenant octobre 2021, comme le temps passe, on commence ce petit voyage dans le temps avec un extrait de l'entretien avec François du groupe François and the Atlas Mountains qui nous parlait de son dernier album « Banane Bleue ».
Mais justement, entrons un peu dans le vif du sujet qu'est Banane Bleue, ce dernier album. Déjà, pourquoi le titre Banane Bleue ?
Eh bien, parce que je l'ai enregistré à Berlin, Paris et Athènes. Et donc ça, pour moi, ça crée une espèce de traversée européenne. Et en visualisant cet axe-là, ça m'a rappelé un cours de géographie qui parlait d'un autre axe européen qui s'appelle la Banane Bleue, qui évoque une zone. Voilà, dans les années 80, on disait que quand on regardait l'Europe vue du ciel la nuit, on voyait une forme de luminescente en forme de banane au-dessus d'une zone qui allait de Liverpool à Milan, comme ça, qui passait au-dessus du nord de la France, de l'Allemagne. Et ça évoque l'Europe électrifiée, quoi, l'Europe cosy, confortable. Et à ce moment-là, quand j'enregistrais l'album en 2019, pour moi, c'était des morceaux qui évoquaient une forme de, voilà, d'errance en Europe, avec ce privilège que j'ai d'être un artiste, avec tous les privilèges, voilà, que ça apporte.
Est-ce que c'est pas le sujet principal du film Pingouin, Égo, Élan et leurs 500 petits, cette question de l'identité et des racines ?
Oui, je pense, en tout cas, je savais en commençant le documentaire que je voulais parler de ce sujet et je voulais finir le film sur ce sujet parce que j'avais vraiment envie que ça puisse avoir des échos avec notre époque. Parce que voilà, tous ces enfants qui donc arrivent à la maison de Sèvres totalement traumatisés, parce que la plupart ont perdu leurs parents dans des circonstances vraiment dramatiques, comme on l'a raconté précédemment, ben, progressivement, au fil des années, se sont construits une nouvelle identité. Ils n'ont pas parlé. Ils ne parlaient pas de leurs parents et des raisons pour lesquelles ils étaient arrivés à la maison de Sèvres. Pourquoi ? D'abord parce que c'était l'époque, donc en général, on ne demandait pas aux enfants de parler d'eux-mêmes et de leur souffrance, ça c'était
sûr,
vrai.
Malheureusement.
Mais il y avait aussi le fait qu'à la maison de Sèvres, ils étaient tellement occupés, leur esprit était tellement occupé et tendu vers l'avenir, que progressivement, ces enfants ont fini par oublier même leurs origines et d'où ils venaient, et se sont construits une nouvelle identité. Et ça, moi, je suis vraiment le témoin de ça, que pour ma mère, d'abord et avant tout, elle avait été une enfant de Sèvres, elle avait cette identité sèvrienne très très forte, et voilà, et toutes ses copines, comme je le dis dans le film, moi je ne savais pas par exemple qui était juive ou qui n'était pas juive, enfin, elles avaient des histoires très 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 différentes. Une des meilleures amies de ma mère est d'origine italienne, et son père était un antifasciste italien, enfin vous voyez, c'était vraiment très différent. Et elles se sont construites une nouvelle identité sur le silence. Et d'une certaine manière, elles s'en sont sorties sur le silence. Et évidemment, c'est assez contradictoire avec l'idée très forte aujourd'hui, qui est qu'en général, quand on a été victime de quelque chose, quel que soit ce dont on a été victime, et elles, Dieu sait qu'elles ont été victimes, il faut parler. Il faut parler, et que c'est par la parole, par la libération de la parole, qu'on peut surmonter ses traumatismes. Et elles sont un peu l'exemple inverse. Donc voilà, je ne veux pas en déduire trop. Je ne suis pas psy, je ne suis pas donneur de leçons, mais je veux juste raconter ça en disant, ben, finalement, l'histoire de la maison de Sèvres est assez contradictoire avec la doxa de notre époque.
Ce premier best-of se termine avec un extrait de l'entretien que nous avons réalisé avec le réalisateur Michel Leclerc à propos de son film Pingouin, Égo, Élan et leurs 500 petits. Le prochain film du réalisateur s'intitule Les goûts et les couleurs et il sort en salle la semaine prochaine, le mercredi 22 juin. Au casting, on retrouve entre autres Félix Moitié et Rebecca Marder dans cette comédie sur fond de droits d'auteur musicaux.
Et ben moi, j'irai le voir le premier jour, je pense.
Moi aussi.
Et en parlant de musique, c'est bientôt l'été. Et qui dit été, dit festival aux sonorités diverses et variées à travers la France. Ce qui nous amène à nous diriger vers Avignon, d'où nous retrouvons Jules, que vous avez pu entendre au cours de cette saison de Feux d'Artifice. Il est au téléphone avec nous cette fois pour nous parler du festival dont il est le co-organisateur. Il s'appelle Love Letters et se tiendra les 1er et 2 juillet à Avignon. Bonsoir Jules.
Je vous entends bien, Simon.
Tu nous entends bien ?
Parfaitement bien.
Nous, on t'entend pas trop mal non plus, je trouve.
Ah, super.
Jules, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce festival Love Letters que tu organises ?
Eh ben ouais, carrément. Le festival Love Letters, on l'a créé en 2018 avec des amis de la fac d'Avignon. On était en pleine étude et on voulait offrir des nouvelles espaces de concert à la ville d'Avignon qui en manquait. et on s'est lancé d'avant dans la cour de la collection Lambert. On était d'ailleurs en partenariat avec, on a construit le festival avec Radio Campus Avignon.
Donc une autre Radio Campus qui est partenaire du coup, qui est dans le réseau Radio Campus France, ça s'était fait, directement jointement avec eux. Enfin, tu peux continuer d'ailleurs ton histoire.
On était membre de Radio Campus, d'Avignon, on était dans le CA et on a organisé cette première édition à la collection Lambert, qui est un musée d'art contemporain. Et on y a fait aussi la deuxième édition en 2019. Et voilà, on revient après deux années d'incertitude sanitaire pour une troisième édition, cette fois au Cabarrus, sur l'île de la Martenasse, de l'autre côté du Rhône, pour des rythmes diablés, j'ai envie de dire.
De l'autre côté du Rhône, justement, c'est vrai que le festival se déroule, on ne l'a pas précisé, au Cabarrus, si je n'écorche pas le nom, sur l'île de la Martenasse. Si c'est bien ça, sur le tract, en tout cas, c'est écrit comme ça, je le dis phonétiquement, et ça se passe sur l'île de la Bartelasse à Avignon. Je le dis bien, et ben ça, c'est formidable. Est-ce que tu peux nous parler de ce lieu? Pourquoi l'avoir choisi comme théâtre, sans mauvais jeu de mots, avec le Festival d'Avignon? Pourquoi tu l'as choisi comme lieu pour le festival? Et quelle a été l'histoire aussi, les lieux où ça se déroulait avant, et tout ça, quoi?
Alors, nous, à la base, on voulait directement dans le centre d'Avignon, dans les remparts. La ville d'Avignon est entourée de remparts, si vous ne le savez pas. On était au sein des remparts, dans des musées d'abord privés, et ensuite en 2020, on a produit des éditions dans le musée de la ville, qui n'a pas marché, évidemment. Cette fois, l'idée, c'était d'augmenter la sauce, de pouvoir permettre à plus de monde de venir, aussi de s'éloigner du voisinage, parce qu'Avignon est une ville très dense, et les voisins qu'on embête tout le mois de juillet avec du théâtre, même pas trop. La musique, les guitares et les batteries. Donc
C'est marrant ça, ils s'habituent pas à la musique et pourtant ils s'habituent au théâtre depuis plus de 40 ans, plus de 50 ans, je sais plus.
En fait, je pense que c'est une histoire de. Ils laissent venir le théâtre pendant un mois et tous ces gens qui hurlent jusqu'à 6h du matin. Et tout ce qui n'est pas ce mois de fête. Ça les embête.
C'est marrant ça. C'est amusant.
Jules, est-ce que tu peux nous dire d'où vient le nom Love Letters? Est-ce que c'est pas un peu des lettres d'amour envoyées à votre public?
On peut le dire comme ça, mais ça vient du magnifique album de Métronomie qui s'appelle Love Letters.
Ah, d'accord, mais oui.
Et la chanson éponyme qui s'appelle aussi Love Letters, qu'on écoutait beaucoup à l'époque. Et quand on a cherché En fait, à la base de festival, on devait le faire à la fac d'Avignon. Et le campus de la fac d'Avignon s'appelle Hannah Arendt. Et on voulait l'appeler le Hannah Arendt Festival. Alors c'est lourd de sens.
Et
du coup, quand on a compris qu'on ne le ferait pas à la fac d'Avignon, et ben, on a cherché un nom. Et le Love Letter est apparu comme une évidence. C'est déjà un album derrière lequel on se retrouvait. Et ensuite, c'est une usine de thunes.
C'est un point commun et un souvenir un petit peu de quand vous étiez sur les bancs de l'université. Et est-ce que tu peux nous parler de la programmation musicale? Alors on va parler un petit peu plus en détail de la programmation de cette édition 2022. Mais quel est le style de musique que vous recevez à Love Letters?
L'idée c'est de au-delà d'un style de musique, c'est de mettre les charges sur des mouvements de l'émergence. Après, en termes de style de musique, c'est assez éclectique. On a beaucoup de rock, beaucoup de guitare, beaucoup de batterie, des temps de plus pas beau à regarder sur scène, mais on a aussi pas mal de pop et un peu de hip-hop.
Un peu de hip-hop aussi, donc c'est une diversité à laquelle vous tenez depuis trois éditions, mais depuis cinq ans plus généralement.
Oui, nous on est deux à programmer avec Gaël Dupé, qui est mon ami de la fac, et chacun nos esthétiques favorites. On fait le festival ensemble, en regardant YouTube sur le canapé, en s'envoyant des liens, en allant voir des concerts, c'est un peu l'harmonie entre nos deux groupes.
Et justement, tu disais, vous trouvez la programmation en regardant YouTube, l'outil YouTube sur l'Internet mondial, hein, il faut le rappeler, c'est sur Internet qu'on trouve YouTube.
C'est vachement bien foutu. Mais justement, comment vous organisez ce festival? Parce que, alors toi, c'est à Avignon et toi, tu transites beaucoup par Paris. Je ne sais pas si les petits camarades avec lesquels tu prépares ce festival sont dans d'autres villes différentes aussi. Comment vous gérez la distance? Comment vous préparez ça? Est-ce que déjà, ça apporte une contrainte particulière d'être organisateur sans être forcément sur le site ou,
On veut connaître les coulisses un petit peu.
Dis-nous tout, le off.
Sinon, c'est comme les relations amoureuses à distance. L'important, c'est la communication.
C'est vrai.
Et c'est bien parler. C'est vrai que les premières éditions, on les organisait quand on était encore à la fac.
Main dans la main.
On était une quinzaine à organiser les trois premières éditions. Là, maintenant, on est plus que trois, quatre. Et on habite à peu près tous à Paris. Et du coup, c'est assez compliqué. Après, on a un réseau, on a vu le lieu, on a un directeur technique qui travaille depuis Avignon, donc on est aidé. Bien sûr que c'est compliqué, mais on s'en sort toujours.
Ça n'a pas changé grand-chose finalement.
Ça a changé le volume de travail, pas vous mentir, mais après on sait pourquoi on va et on sait pourquoi on fait.
Mais c'est intéressant d'entendre ce genre de d'anecdotes, de coulisses finalement, parce qu'on vit dans un monde de distanciel, et pas seulement depuis le Covid finalement. Tout le monde est confronté parfois à changer de ville, et c'est intéressant d'avoir des retours.
Et au-delà des concerts et tout ça, est-ce que justement il y a d'autres petits événements qui s'organisent autour de ce festival? Je pense par exemple à des tables rondes, à des rencontres, à des expositions temporaires.
C'est ça. Cette année, on a deux victoires. Il y a Agar qui vient présenter son nouvel album.
D'accord.
Et en parallèle de cet album, il sort un jeu vidéo. Et du coup, on va revenir au premier lieu du festival, qui est la collection Lambert, pour présenter ce jeu vidéo le samedi après-midi, en présence du groupe et du développeur du jeu vidéo, pour discuter du jeu et de la création, mais aussi bêta-tester le jeu en public à la collection Lambert, qui est un magnifique lieu d'activité.
Donc c'est le genre de choses que t'apprécies, enfin que vous avez pris à cœur d'améliorer, enfin pardon, je ne me permettrai pas d'utiliser ce verbe, mais d'ajouter pour amplifier, pour nourrir la programmation de ce festival. Est-ce que tu as d'autres exemples justement? Est-ce que tu peux aussi nous parler des autres artistes? Du coup, il y a Agar accompagné de son jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous teaser un petit peu d'autres événements de ce genre?
Ah, d'autres événements de ce genre, ce sera la seule programmation annexe à la musique.
C'est le seul truc annexe. Mais il y a des beaux concerts aussi en dehors d'Agar.
Le centre de l'activité, c'est quand même les concerts. Et du coup, de cette Agar sera aussi sera entouré de groupes locaux, nationaux et internationaux. Je pense à sur le samedi de hier à Sparkling, qui est un groupe de pop rock qui vient de Cologne en Allemagne. Qui a sorti un album il y a peu, et dont le premier album, vous avez sorti en 2021, je crois, vous avez vraiment impressionné, j'ai deux frères et un troisième larron, et leur musique est vraiment super. Ils sont tous jeunes, ils doivent avoir notre âge, et la musique qu'ils offrent est vraiment à la fois très réfléchie et très fraîche, tout en chantant en anglais, en français et en allemand. Et voilà, il y a cette esthétique-là, il y a aussi le Casité qui est un français qui a signé chez Microclimat, je ne sais pas si vous connaissez ce label, c'est le label de l'impératif.
D'accord.
C'est un label parisien, et pareil, là c'est des machines à tube ultra pop, deux sur scène, un frère et une sœur.
Il y en a des biens. Et justement, dans cette idée, tu es hyper passionné quand tu parles de tous ces artistes qui vont venir au festival Love Letters. Est-ce que justement, quel est ce qu'il y a un public auquel vous vous adressez? Parce que justement, ça a été fait les deux premières éditions en partenariat avec Radio Campus Avignon. Ça se passe à Avignon. Est-ce que c'est un festival qui s'adresse au monde étudiant, au monde que ce soit local comme d'ailleurs? Local au sens avignonnais du terme.
Alors nous, on a à la base, évidemment, ça tombait tout le temps sur des villages étudiants avignonnais, mais on a toujours pensé ce festival comme une offre supplémentaire globale, et ça s'est un peu vérifié dans les publics qu'on a pu accueillir pendant les premières éditions. Alors il y avait beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, mais il y avait aussi pas mal de familles, et pas mal d'adultes, de parents qui venaient avec leurs enfants et tout, et l'idée, en fait, c'est de ouais, de faire une offre qui peut toucher tout le monde, qui peut toucher les personnes qui s'intéressent à la musique, ou même qui veulent passer un bon vendredi soir ou un bon samedi soir à Avignon sans débouché de cours. Et alors après, évidemment, il y a un tarif étudiant et on...
Évidemment.
De la musique qui est surtout utilisée par des étudiants quand on pense à la pop fraîche et le hip-hop, mais pas tant que ça. Et au final, les gens qui reviennent sur plusieurs éditions, sur les deux dernières éditions, bah, c'est avant tout des familles et des adultes qui attendaient d'avoir cette offre-là à Avignon, en fait.
Et qui sont maintenant heureux de l'avoir.
Merci beaucoup Jules, tu restes avec nous ? On continue de parler de Love Letters et plus généralement de culture pendant l'été après une pause musicale.
C'était Moto de Place, fruit de la collaboration entre la formation saharienne Groupe Doué et les Français de Cheveux. Le morceau figure dans l'album Dakla Sahara Session, qui en plus d'être vachement bien, et aussi ma Madeleine de Proust estivale et musicale, bien sûr, que j'avais découvert en cherchant ce qu'il y avait à la fête de la musique qui a suivi ma dernière épreuve du bac. Souvenir. Voilà, c'était la petite anecdote du soir.
Feu d'artifice, le magazine qui met un doigt dans la culture.
On est en direct jusqu'à 21h sur Radio Campus Paris pour ce dernier feu d'artifice de la saison. On est toujours avec Jules, co-organisateur du festival avignonnais Love Letters. L'été, c'est aussi synonyme de saison des festivals. Jules, tu nous as parlé du tien, Love Letters, mais j'étais curieuse de savoir si parmi vous, c'est-à-dire nous trois, vous avez d'autres festivals musicaux ou pas forcément de prévus au courant de l'été ?
Ouais, carrément. Moi, je vais aller aussi au Midi Festival, qui est, je sais pas, 25 ou 27 juillet, il me semble, un peu pendant les dates à Guerre.
À Guerre, ouais.
Sur les réseaux. C'est magnifique. La programmation déchire. Cette année, il y a Feedback.
Oh, c'est quand
Il y a 25 ou 27, je vérifie. Il y a Monsieur Joseph, il y a Foril, il y a Jacques. Enfin, la programmation est folle. L'offre est 22 ou 24 billets. Ouais, énorme. Et la programmation déchire de ouf.
Ah bah oui, oui, ça fait envie.
Jacques et plein d'autres. C'est vraiment super. Squid aussi, ça va être bien.
Sympa.
Et tout ça, au bord de la mer, à Hier, au site archéologique d'Olvia, c'est quelque chose à faire dans sa vie. C'est vraiment quelque chose à faire dans sa vie.
Ça fait extrêmement
envie. Après être allé au Love Letter Festival.
Évidemment.
Évidemment, ça va pas.
1er et 2 juillet.
Moi, pour ma part, je vais à Rock en Seine.
C'est vrai?
Ouais, c'est fin août, du coup, j'y vais le 25. La programmation est assez alléchante aussi, parce qu'il y aura les Arctic Monkeys, qui n'ont pas sorti d'album depuis longtemps, et pourtant, ils se retrouvent sur scène à l'occasion d'un concert, donc à Rock en Seine. Et il y a aussi Youngblood et d'autres groupes que je n'ai plus en tête.
Bah, j'aimerais bien y aller le dimanche à Rock en Seine, parce qu'il y a Aurora qui passe, et j'adore Aurora. On verra si j'ai des amis d'ici là. Une question aussi qui va s'adresser, on n'a pas énormément de temps pour parler, évidemment, on aurait pu parler de la pluie et du beau temps, mais on va parler de la culture l'été. Est-ce que ça vit seulement sous une forme musicale pour vous, ou est-ce que ça prend d'autres formes, la littérature, le cinéma? Jules, c'est quoi pour toi l'été et l'art?
Bah, l'été, moi, vous savez, je travaille à Radio Campus Paris, donc
c'est vrai.
La culture, j'en suis abreuvé en permanence. ça prend la forme de radio. Après, c'est vrai que la musique, ça permet tout chose, c'est d'être en extérieur et de toucher en même temps. Et peut-être un peu de théâtre à Avignon.
Ah oui, le théâtre à Avignon, évidemment.
C'est la maison, ça.
On adore. Et Agathe ?
Moi, pour moi, ce serait plutôt la littérature, parce que c'est vrai que l'été, en bord de plage, bord de mer, tout ça, moi, j'aime bien lire. C'est un moment où on a le temps aussi, où on est reposé. Et lire à tête reposée, quand il fait beau, quand on est bien, c'est vraiment sympa.
C'est vrai que c'est fort sympathique.
Et toi, Simon ?
Il y a les festivals en plein air, j'adore ça. Les festivals de cinéma en plein air, parce que c'est vrai que c'est un moment qui est toujours assez convivial. Quand il y a des RER, hein, je ne suis jamais que banlieusard, donc c'est toujours lié. Non, mais c'est vrai, parce que souvent, quand c'est en plein air, il y a le coucher du soleil, les trucs comme ça. Enfin, faut attendre le coucher du soleil, donc faut attendre 22h, donc faut que le film commence déjà à l'heure et tout. Enfin, bon,
Festival de cinéma à la Villette en plein air aussi.
Il y a la Villette, je crois qu'il y a un truc au Louvre aussi. Enfin, bon, il y a énormément de choses. Mais bon. On vous invite évidemment à aller regarder les festivals en plein air, que ce soit à Paris ou ailleurs, parce que tout le monde ne vit pas à Paris et ces gens-là ont de la chance. On va te laisser, Jules.
Merci encore, Jules, d'avoir passé une tête.
Quel plaisir de vous entendre.
Mais c'était plaisir extraordinaire. Partagé. On a adoré.
On rappelle que le festival que tu organises, Love Letters, se tient les 1er et 2 juillet au Cabarouf, sur l'île de la Barthélas d'Avignon. Et on peut en retrouver toutes les infos sur le site lovelettersfestival.com.
Merci beaucoup.
Merci, Jules.
Et bonne soirée à Avignon. C'est super. Exactement. Merci beaucoup encore d'avoir été avec nous. Ciao. Et à bientôt. On l'a déjà dit depuis 20h, c'est le dernier numéro de Feu d'Artifice avant d'aller profiter des plages ou de fuir la canicule en restant au frais, ça dépendra de la météo. Dans tous les cas, on continue tout de suite de se plonger dans les souvenirs de cette première saison avec quelques extraits qui commencent avec une intervention de Charlie Barbier. Il était venu en février 2022 avec nous et il parle de toutes les actualités qui l'ont inspiré avant et pendant le confinement pour écrire son dernier roman, Le Faussaire. Il va aussi arnaquer jusqu'au plus haut sphère de l'État. J'aime bien cette expression. Il va aller jusqu'à créer une arnaque en pleine élection présidentielle. Est-ce que c'est aussi toi personnellement, en tant que citoyen, si je puis dire, une forme de... Non, mais est-ce que tu es en train de préparer ça?
Non. Écoute, le dernier mec qui a été élu a parlé de hold-up, genre 3 jours après être arrivé à l'Élysée. Il a dit publiquement, on a fait un hold-up, on a braqué Hollande.
On ne le nommera pas. Mais est-ce que en tant que dans ta démarche d'écriture, c'est une petite revanche en tant que citoyen sur ce système ou juste un moyen de mettre entre guillemets des baffes pour reprendre les termes d'un ancien auteur des Guignols
Alors non, pas pour mettre des baffes parce que j'en ai pas la prétention, je suis pas assez connu et je fais pas assez de ventes, donc du coup je mettrai des baffes à personne à part à ma voisine.
Qu'on embrasse.
Non, c'est juste c'est un exutoire, c'est un exutoire, c'est. Bah pareil, je suis désolé de revenir à ça, mais j'ai cette création pendant le Covid et il y a Agnès Buzyn qui nous sort la parade de « aller voter, il n'y a pas de problème, on s'en fout ». Moi, ce qui est important, c'est que l'autre con a monté sa bite. Donc, la bite à Griveaux, pour ceux qu'on aurait oublié. Oui, oui, non, parce que Agnès Buzyn...
On oublie vite.
En fait, elle est en train de gérer... Voilà, Agnès Buzyn est en train de gérer la pandémie du siècle, sauf qu'entre-temps, il y a la bite à Griveaux. Hein. Donc du coup, Agnès Buzyn doit remplacer l'habitat Griveaux. Parce que la pandémie du siècle, en fait, voilà. Et là, elle arrive, non mais allez voter, c'est bon, il n'y a pas de problème.
C'est vrai oui. que c'était un terreau fertile quand même, c'était pile la bonne période. Il y avait Trump d'un côté, il y avait Griveaux ouais. et Buzyn de l'autre.
Ouais, ouais, j'ai été abreuvé, j'étais là, je me disais, mais non, je t'ai plus, c'est bon.
Matière, ouais.
J'essaie de faire un bouquin qui fait 200 pages, 300 pages, j'ai pas la place.
Et j'avais déjà un projet de podcast sur les musiques extrêmes, mais je m'étais dit, il faut que je trouve un truc quand même plus vendeur et quand même plus, plus accessible au grand public. Ouais, de fou. Non, et puis il y a cette boîte.
L'arnaqueur.
Il y a cette boîte et ces questions qui ont été en grande partie en fait, créées par ma meilleure amie, que Charlie connaît aussi, Eve Oudenot, on lui passe le salam. Et en fait, j'avais cette boîte et on n'en faisait rien, alors que elle défonce, les questions qui sont dedans défoncent. Enfin, il y avait vraiment un putain de potentiel avec ce truc.
J'avais joué avec le prototype, ouais. Je crois, effectivement.
Donc, je m'étais dit, vas-y, on va demander si on a le droit de faire un podcast avec ça. J'ai eu le droit, donc je suis parti là-dessus. Mais ça a mis un an quand même. Ça fait un an que j'ai l'idée et ça a mis à peu près un an à se mettre en route. Et ouais, il y a l'envie d'être célèbre.
Et tu peux nous parler un peu du choix des illustrations? On a vu le jeu, on l'a partagé sur nos réseaux sociaux, nos auditeurs pourront le découvrir plus tard. On peut y voir par exemple des caméras de surveillance, des masques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, pour illustrer, on est parti sur le masque de Guy Fawkes. C'est le masque qui a été créé donc par Guy Fawkes lui-même au XVIIe siècle. C'est un signe de révolution, hein, donc c'est pour ça qu'on ça fait partie du jeu, parce que c'est un signe fort de la révolution. Après, les yeux, tout simplement par rapport à la surveillance. Donc dans 1984, tout est surveillé, c'est pour vraiment marquer ce point-là. Dans le thème du jeu, en fait, c'est un groupe de résistants qui nous envoie des défis. Donc on a un certain nombre de défis à remplir et celui qui va au mieux remplir les défis va rejoindre la résistance. Voilà un petit peu dans la thématique du jeu.
Et c'était, vous aurez peut-être reconnu les voix dans l'ordre de Jacques Bouillet qui nous parlait de son podcast Aléatoire.s que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube la voix de Jacques est suivie de Jérémy Partinico dont le dernier jeu Dictopia est toujours disponible dans les boutiques de jeux de société de qualité et c'est sorti aux éditions Subverti. Merci à LE d'être passé, enfin à eux en l'occurrence d'être passé sur le micro de Feu d'Artifice.
Et tout de suite, on écoute une chronique de notre cher André. Il n'est malheureusement pas avec nous en plateau, mais on pense à lui et on est content d'écouter cette chronique qui, on espère, annonce la couleur pour la saison prochaine.
Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode de Scope in Tune, l'émission qui te fait découvrir ta nouvelle artiste préférée. Pour ce second épisode, coup de projecteur sur Lava la Rue. Enfile ton impair, aujourd'hui on déambule dans les rues de Londres avec la nouvelle queen de la pop et du hip-hop britannique. À peine âgée de 16 ans, Ava Laurel, de son vrai nom, commence à faire de la musique dans sa chambre avec ses amis de 9-8 et à mettre leur production sur SoundCloud. Et rapidement, le succès d'Estime est au rendez-vous, même si Lava préfère rester fidèle à ses débuts do-it-yourself et décide de s'autoproduire avant de signer chez le label indépendant Marathon Artists. Artiste multifacette, Lava la Rue distille à travers ses chansons planantes ou entraînantes son quotidien, les difficultés du passage à l'âge adulte, mais également l'amour queer ou la violence sociale britannique. Teintée de différents genres, comme la soul ou le R&B, il faut dire que la musique de Lava est produite par des pointures, comme entre autres Isom Innis de Foster the People ou Vigin, producteur notamment de Frank Ocean ou Travis Scott. Lava,
valley of your dreams. I could be the ice, your cream. I could be the apple of your eyes, so fly when I ride by camel, taste so sweet. Oh, but I can't lie, baby, Vince, I think I like you. Why be friends when we were written like a haiku? I'll take it lightly.
Allez. En attendant d'écouter la suite, on se quitte avec son morceau Magpie, issu de son EP Butterfly. C'était Lava la rue avec Magpie dans Scope in Tune, l'émission qui te fait découvrir ta nouvelle artiste préférée. On se retrouve très vite pour un nouveau coup de projo.
Et on remercie Chalo. Et on remercie chaleureusement l'ami André pour cette chronique de qualité. Simon, feu d'artifice,
oui,
c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais aussi pour
saison.
Cette saison.
Oh,
et oui,
là
oui.
Là. Mais on va revenir normalement. On revient un mois sur deux à partir de la rentrée, à partir de octobre ou de novembre. Nous verrons avec la grille, mais on vous communiquera sur l'internet mondial. C'est le moment de dire merci.
Oui,
et
déjà.
De pleurer.
Déjà merci à toi, Simon.
Bah oui, merci à toi aussi, Agathe. C'est vrai que
c'était
un plaisir
une belle
de t'avoir
saison.
Pendant ces six émissions. Merci aussi aux gens qui ne sont pas là mais qui nous ont accompagnés pendant ces six premières émissions. Merci à Lalia pour ton humour sans frontières. Merci à Jules et à André pour vos chroniques et vos jeux qui ont rythmé cette saison. Et bien sûr, un grand merci à Maxime et à Camille qui se sont succédés à la réalisation de cette émission. Et encore merci à toi, Agathe.
Allez,
un petit merci.
Encore merci à toi, Simon, alors. Et merci surtout à vous, chers auditeuristes, de nous avoir écoutés. On revient à la rentrée pour une deuxième saison, un samedi tous les deux mois à 20h, dans vos oreilles et toujours sur le 93.9 FM.
Et d'ici là, on vous souhaite un bon moment en écoutant Gelstadt sur Radio Campus Paris. Et après ça, on vous souhaite un très bel été sur les ondes et surtout, allez voter demain.
Oui.